Elle est née très exactement le 13 août 79 à Nancy et depuis, elle court. Quand elle enrage, elle court. Quand elle est triste, elle court. Les larmes, là, elle ne les sent pas. Elle coule peut-être. Elle ne sait pas ces choses-là. On n'en parle pas. À la maison, on n'a pas le choix. On marche, on court, oui, mais tout droit. Être mauvaise n'est pas une option. Il faut scorer, il faut performer. Les résultats doivent être bons. Cocher les cases et avancer. Marquer des points, toucher, panier. Michael Jordan, là, affiché dans sa chambre d'ado, fait rêver sur la route qui mène au lycée, et puis au bac, puis à la fac, et jusqu'à la maternité. Il y en a eu un, puis deux, puis trois. Elle a encore accéléré, court après ses enfants maintenant, comme toujours court après le temps. Les journées filent plus vite qu'elle, ça la rend folle. Ouais, c'est cruel de toujours perdre à ce jeu-là, à la nuit qui n'arriverait pas, la nuit qu'elle aime aimer parfois. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Elle le sait, elle l'a lu, Rostand, à l'époque où elle avait le temps. Attends, c'était quand? Eh ben maintenant, tiens, 12 mars 2020, premier confinement.
France Inter. Julia Foyce. Unique en son genre.
Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Le service de garde sera mis en place, région par région, nous nous trouverons les bonnes organisations pour que, en effet, les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail pour vous protéger et vous soigner. Et donc, cette organisation sera travaillée par le gouvernement dans les prochains jours avec l'ensemble des élus et tous les responsables sur nos territoires.
Je sens là des petites suées en chacun de vous. Vous vous souvenez? Claque murée avec les enfants à la maison. Évidemment, fallait continuer à travailler. Bonsoir, Marie Petit-Cuenot.
Bonsoir, Julia Foyce.
Ça vous parle à vous aussi, je suppose. Hein. Cette annonce d'Emmanuel Macron, vous l'aviez entendue avec vos enfants et votre conjoint à la maison il y a 2 ans. Vous vous êtes dit quoi exactement? Comment vous l'avez vécu, cette perspective de vivre enfermée à la maison avec enfants?
Mais il y a eu une sorte de dissonance, c'est-à-dire au fond, je m'attendais à ce qu'ils me disent « non, mais c'est plutôt une blague ». Je voyais mes enfants qui sautaient partout, qui écoutaient pas, qui comprenaient pas, et moi j'étais mais sonnée, quoi, littéralement sonnée. Ouais. Et alors dans le jour d'après, qui était un peu le dernier jour, parce qu'ils avaient encore un jour d'école, là c'était les sous-mariniers qui se préparent. C'est-à-dire moi je suis allée à mon bureau, j'ai pris mes affaires, un peu murée, ouais, un petit peu comme je sais pas, une chanson de Michel Sardou, il y avait quelque chose d'un peu puissant, il y avait le Connemara un peu qui traînait quelque part. Enfin en tout cas, on était là en train de se serrer les coudes, de pas se parler, de savoir qu'on partait pour quelque chose qui allait nous transformer, mais faudrait pas trop dire comment, quoi.
On savait pas combien de temps ça allait durer, surtout.
On savait pas. Ouais. Donc j'ai acheté du badminton, j'ai acheté des crèches, je me suis préparé, hein, mais j'avais peur. Essentiellement, j'avais peur.
Alors vous déconfinez en écrivant, vous publiez cette année votre tout premier roman, Ce qui gronde, aux éditions Flammarion. Face au quotidien qui, dites-vous, épuise vos mots et lessive votre parole entre le fantasme exalté de la maternité et la réalité impatiente des jours. Je préviens, je vais vous citer beaucoup parce que je trouve que vous avez une très très jolie plume. Vous écrivez des lettres à vos enfants. Pourquoi ?
Alors j'ai toujours écrit des lettres à mes enfants depuis qu'ils naissent, parce qu'avant d'avoir des enfants, je crois, on fantasme un peu sur l'idée qu'on va pouvoir leur dire de grandes choses, de belles choses, qu'on va pouvoir leur lire de la poésie, en tout cas moi c'est ce que je pensais, qu'on va pouvoir avoir des propos philosophiques, leur montrer ce qu'on a appris nous, essayer de les élever. Puis en fait, c'est une collection de brosse-toi les dents, mais montre-moi, ouais. Montre-moi vraiment tes dents, ouais. et puis range, et au fond, l'espace de transmission, d'humanité profonde, d'amour profond, il est extrêmement réduit, il est aléatoire. Et donc ces lettres, c'était le moment pour moi, en dehors d'eux, c'est-à-dire je le faisais ailleurs, de me poser, de poser les mots, de leur dire qui j'espérais les voir devenir ou les peurs que j'avais. Et je savais qu'ils le liraient plus vieux, mais c'était une façon au fond de pas transformer ma parole d'adulte. Parce que quand on parle à les enfants, on leur parle différemment. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on peut penser, sentir, projeter sur eux. Et donc, c'était une façon de leur dire. Et puis, c'était un peu morbide aussi, hein, parce que je me suis dit, si un jour je meurs
oui,
dans un avion...
Oui, il y a quelque chose, c'est ce que j'allais dire. Il y a une irruption de vie à chaque page dans ce livre-là, comme seuls sont capables de produire les enfants. Et en même temps, il y a toujours la mort qui rôde. Écrire, c'est aussi une façon de la repousser.
Oui, en tout cas, le projet de ce livre, c'était à la fois d'écrire pour ses enfants et probablement d'apprivoiser l'angoisse du temps qui passe, qui au fond avec eux ne se résout pas. C'est-à-dire, on peut avoir l'idée qu'une fois qu'on a des enfants, il y a évidemment une idée de l'infini dans le fait d'avoir les enfants. Il y a une idée d'éternité. Après vous, ils vivront, espérons. Mais ce temps pour moi, il change pas. C'est-à-dire, au fond, je trouve presque un peu rude et en même temps très très beau de savoir que quand moi je vais décliner, eux seront en pleine possession de leurs forces. Mais ce temps-là, pour moi, il change. change pas. Et c'était sa façon de mettre l'émotion et de leur dire que je les aime aujourd'hui et que je les aimerai plus tard, j'espère.
Tout est dans le j'espère. Je vous écris du fond de l'angoisse et de la peine au bord de la joie et de la légèreté. Vous dites avec l'amour immense que vous éprouvez pour eux, la fatigue aussi d'être mère, l'insupportable de la maternité parfois. Et ça, ça fait encore très mauvais genre, même en 2022. Mais au quotidien, Marie Petit-Cuineau, votre petite provocation à vous, votre transgression du bon goût, ce serait quoi?
Alors moi, je dois avouer...
J'aime quand vous baissez la voix.
Ouais, je dois avouer que je visionne des tirages de tarot sur YouTube pour les horoscopes. J'avoue.
Mais que...
Je suis lion.
Que en visionnant. C'est-à-dire ça, vous n'avez pas de jeu de tarot chez vous?
J'ai pas de jeu de tarot.
Vous n'allez pas voir de voyante, de cartomancienne?
J'y suis allée voir une cartomancienne une fois et une astrologue au téléphone une fois. Et d'ailleurs, c'est monstrueux parce qu'elles m'ont dit des choses que je n'oublie jamais. Et c'est insupportable.
Est-ce qu'elles ont eu raison?
Et pour l'instant, oui, hélas.
C'est vrai?
C'est pénible. Ouais. Donc ça, c'est mon mauvais goût à moi. J'arrive pas à m'empêcher, notamment quand je cuisine, je mets ça en fond. Horrible.
Et alors vous, quand vous regardez dans le miroir, là, je vous le tends. Regardez-vous, prenez le temps d'enlever votre masque. Regardez-vous. Vous voyez quoi? Qui?
C'est une question difficile. Déjà, je me reconnais, ce qui est déjà une bonne réponse pour moi. Après, je vois une femme qui a gardé de la malice et au fond c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le regard qu'on garde. Quand vous voyez, moi j'ai fait beaucoup de salons littéraires et j'ai vu des femmes, il y a beaucoup de femmes qui écrivent, hein, des femmes de 60-70 ans dont la malice dans le regard m'a tellement réjouie, j'espère être ces femmes-là.
Vous les regardez aussi longuement, vos trois enfants, pour eux vous écrivez la culpabilité, l'amour, les peurs, la colère, la tendresse, l'espoir, l'angoisse, l'étouffement parfois. Je veux vous laisser une trace de nous, vous dire la rage face au temps qui passe et qui me retire tout petit à petit, sans pause, sans empathie. Ce temps qui ne me laisse aucune chance de vous aimer assez, aucune chance de m'arrêter pour reprendre mon souffle et pour vous regarder.
Cherchant notre chemin, on s'était arrêté dans une ville éventrée, le monde s'embourbait dans les rues encombrées. Poursuivis par des averses sans fin, vite nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée, un escalator mécanique désarticulé. On se pressait dans la mêlée sans s'entendre ni se parler. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux, 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 flux. Le flot flou de la foule, 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 le flot flou de la foule. Comme un intestin, on a suivi les gens dans l'air moite, le fracas, tout devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulldozers au-dessus nos têtes défonçaient les chaussées décrépites, ignorant les frêles, les mous, les neurasthéniques, les flics semaient le chaos avec leur sirène. Sur un panorama,
Françoise Breux, des rives urbaines dans la ville cannibale, et c'est plein de petits cannibales qui nous habitent ce soir. Des petits vautours, vous dites-vous, Marie Petit-Cuenot, petits vautours qui nous dévorent le temps, l'espace et jusqu'à l'identité même. Alors, ce qui gronde, votre livre, c'est autant l'amour d'une mère que la colère, parfois, de l'être unique en votre genre. Vous êtes notre invité.
Unique en son genre.
Vous êtes donc né à Nancy le 13 août 79, juste avant de vous mettre à courir. Vous grandissez en Lorraine dans une famille de cheminots, fille unique, quelques cousins mais éloignés. La cellule familiale est réduite à son plus strict noyau. Mais un noyau dans lequel on vit comment ?
Dans lequel on fait beaucoup de sport, dans lequel on est très exigeant sur les résultats à l'école, dans lequel il y a beaucoup de présence parentale, et puis quand même une forme d'isolement, c'est-à-dire vraiment cette famille un peu nucléaire, elle est soudée dans une sorte de... d'ignorance de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire on n'a pas vraiment envie de nouer beaucoup de liens autour.
Ah oui.
Ouais.
Ça vous l'expliquez comment ? C'est la personnalité de vos parents qui sont des timides, qui sont des discrets, c'est une méfiance, c'est quoi ?
Non, je pense que c'est très marqué par la personnalité de mon père, qui est quelqu'un de très décidé, qui choisit vraiment ce qu'il fait, qui y voit, qui est un autodidacte, qui apprend beaucoup, qui est très curieux, qui fait beaucoup de choses. Mais on a le sentiment qu'on met son énergie et son temps dans la réussite de son enfant et que de toute façon travailler c'est important, que pour réussir il faut travailler et donc on y met le temps qu'on doit y mettre.
Et votre mère, c'est quel genre de mère ? Quelle idée de la maternité elle vous transmet en fait ?
C'est une question difficile parce que ma mère a une personnalité moins forte que celle de mon père. Elle est très présente dans le quotidien. Elle s'occupe beaucoup de moi. Ils jouent tous les deux d'ailleurs beaucoup avec moi.
Ouais.
Après, moi, je les ai pas vus parents finalement parce que j'ai pas de frères et sœurs. Donc je les ai eus comme parents. Et quand on est enfant unique, on est dans un monde d'adultes. Donc on a pas beaucoup de monde d'enfants.
Ouais.
Donc j'ai presque du mal à vous répondre. En tout cas, ce sont des parents très présents et très exigeants.
Et qui sont heureux d'être parents. Vous le sentez ça?
Moi, je sens que ça fait partie de leur destin, de leur envie. L'idée qu'ils n'en aient pas eu d'autres, j'ai du mal à vous dire pourquoi.
Vous n'en avez pas parlé avec eux ?
Si, à un moment, et puis je comprends qu'il y a un moment ma maman qui s'occupe beaucoup de moi, elle reçoit la proposition de mon père d'en avoir un autre vers 12 mois et qui dit qu'elle est à ce moment un peu fatiguée, puis et qui après est d'accord et mon père qui est plutôt parti sur autre chose, donc je comprends qu'il y a une sorte de mismatch, mais
ouais.
Tout ça n'est pas forcément complètement clair pour moi. Je ne sais pas si ça doit l'être d'ailleurs.
Est-ce que c'est des parents avec lesquels vous pouvez parler ?
Ah, toujours.
De ces choses-là aussi ?
Je peux parler de tout, mais essentiellement on parle politique, actualité, sport.
Ouais. Alors vous êtes bonne élève, sage et studieuse. Hein, à la maison, les mauvaises notes ne sont pas une option, écrivez-vous. Mais quand même, la pause télé, vous y avez droit. Et le mercredi après-midi, vous regardez ça. S'occupe la télé dans votre vie d'enfant à ce moment-là ?
Ah, une grande place.
Ouais.
Je pense comme, j'allais dire, classe moyenne des 70-80, c'est-à-dire au fond, c'est là où on se retrouve, on regarde plein de choses différentes. On regarde Maggie, on regarde Arnold et Willy, bien sûr, on regarde, alors pour moi, Olive et Tom, Jeanne et Serge, mais on regarde aussi des séries sur la justice, on regarde les grands procès, on regarde de l'histoire, on regarde du sport. Donc en fait, c'est ce moment assez classique, hein, du soir, après le dîner. Moi, j'étais assez bonne élève, mais je travaillais souvent jusqu'au dîner au-delà, moins, voire pas. Donc, et puis c'était le week-end. Et pour mes parents, il y avait cette espèce d'accord de t'as des bonnes notes et puis le reste du temps, on lâche quoi.
Est-ce que ça suscite des vocations chez vous ? Comment vous vous imaginez plus tard ? Vous dites quand je serai grande, je serai quoi ?
Et ben quand je serai grande, je serai avocate.
C'est vrai ?
Ah oui. Alors, ce que je suis pas du tout, on est d'accord. Mais quand je serai grande, je serai avocate. Et c'est marrant parce qu'un jour, moi, je faisais de la communication avant d'être en cabinet ministériel. Et j'avais du mal à trouver des vrais modèles dans ce milieu. Et je me suis dit, quels sont tes modèles finalement? Et je suis revenue à ça. C'est-à-dire, au Ruth Ginsburg, c'est-à-dire au grand juge, mais aux gens qui font des plaidoyers. Parce qu'au fond, le plaidoyer est quelque chose qui m'a toujours touchée à la fois dans la parole, mais dans la radicalité de la quête, de l'envie, de la conviction des gens. Et donc, ça, c'était, alors.
Et puis c'est un travail sur les mots.
C'est un travail sur les mots, c'est un travail sur les émotions, c'est un travail d'incarnation, c'est un travail de voix au sens presque métaphorique de la chose. Mmh. Et donc ça, aujourd'hui, je pense que je l'ai toujours porté et ça se cristallise à différents moments. Le livre, c'est une chose. Défense de sujets féministes en est une autre. Ouais. Aujourd'hui, travailler au sein du gouvernement, évidemment, je ne suis pas.
Oui, parce que je précise que vous êtes au cabinet du ministre de l'Industrie, de la ministre de l'Industrie.
Exactement.
Pardon.
Et donc c'est aussi une façon de pousser des sujets qui sont importants pour moi, qui sont forts, qui sont puissants. Mmh.
À l'époque, pour le coup, est-ce que dans tout ça, il y a, quand même, vous grandissez, là, Arnaud et Willy, vous avez 10 ans, mais alors bientôt 11, puis 12, le corps se transforme, les garçons apparaissent dans votre vie, ils sont quoi, ils sont qui pour vous?
Alors, dans ma famille, ça n'existe pas, c'est-à-dire au fond, je suis une fille, je suis un garçon, il n'y a pas d'assignation au genre. C'est-à-dire, alors, on n'a pas une famille avec beaucoup de séduction, de maquillage, ça pas du tout. Donc, on a une famille qui se lève, qui va faire du sport, hein, c'est quand même ça le sujet.
Ouais, d'accord.
Et qui doit marcher à l'école.
Ouais.
Mais en gros, on m'a jamais dit faut te marier, on m'a jamais dit faut pas te marier, on m'a jamais dit attention un garçon, on m'a jamais dit. Juste, ça n'existait pas.
C'est et vous avez sujet. Vu vos parents amoureux?
Je les ai vus dépendants l'un de l'autre, alors pas au sens financier, mais dépendants, c'est-à-dire pas vouloir passer beaucoup de temps l'un sans l'autre. Mm-hmm. Je les ai vus extrêmement liés, amoureux au sens romantique, je dirais pas.
D'accord.
Je les ai vus, comme beaucoup d'entre nous, répéter des petits jeux en permanence. Mais en tout cas, la partie les garçons n'existaient pas. Et je me souviens une fois de mon père qui m'aperçoit embrasser un garçon, moi, je devais avoir 17 ans ou 18 ans. Et alors là, vraiment, rien n'était arrivé. Pas un mot n'a été mis dessus. Ça n'existait pas.
Alors ça n'existait pas et en même temps, l'amour, ça se décrète pas, ça ne s'interdit pas non plus. Il survient dans votre chambre d'adolescence. Il a parfois ce son-là. Marie Petit-Cueneau, quand vous entendez ça?
Bah là, clairement, je suis dans ma chambre, il est minuit, je dors pas, il y a la chaîne IFI, qui est un objet que nos enfants ne connaissent pas, qui est encore un peu allumé, et là, je ressasse des mémoires de boom d'un garçon qui m'a jamais regardé, qui a invité ma copine, ou pire, qui a été éconduit par ma copine sans même me regarder. Et l'ensemble de ces petits chagrins, au fond, au cours desquels, et c'est bien ce que sur l'histoire familiale, c'est dans lesquels je finis par me sentir assez intouchable, c'est-à-dire trop d'école qui marche bien, trop de sport, trop d'en dehors de tout ça. Ouais. Et finalement, ça se matérialise à la boom, mais en fait, il n'y a pas de féminité apparente, je pense, à ce moment-là.
Et c'est là où ça pique, quoi.
Et il y a du chagrin quand même, c'est ça qui est drôle. C'est une forme de décalage intense entre ne pas être dans ce monde-là pour l'éducation, la performance, et en même temps, c'est ce que vous dites, ça surgit, c'est comme ça.
Alors, votre père vous pousse au résultat et à la performance, ça va jusqu'où?
Ça va jusqu'à une grande forme d'intransigeance, c'est-à-dire c'est sur les terrains de basket, si vous exprimiez un peu de fatigue, on vous disait très bien, on va rentrer à la maison, mais tu n'espères pas jouer le week-end prochain.
Mais cette intransigeance, vous la faites vôtre?
Vous l'adoptez,
ouais.
Bien sûr, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire au fond, enfin, jusqu'à ça va loin, je veux dire, parce que je me souviens du bac, à ce moment-là, on le passait en première et on pouvait le repasser en terminale, et en première, je passe mon bac de français et j'ai, je sais pas, 12. Alors je pleure toutes les larmes de mon corps, mais littéralement, alors là, je vois un père qui est complètement dans l'incompréhension de cet immense chagrin, et qui en fait ne voit pas à quel point son exigence, je l'ai faite mienne, mais jusqu'à une radicalité plus forte que lui, et ça, je pense que c'est classique de la transmission.
Mais en même temps, il y a une espèce de dichotomie en vous, parce que vous avez déjà commencé à écrire à cette époque-là.
Oui.
Vous en faites quoi de cette sensibilité-là? Vous mettez un couvercle dessus et puis on avance?
Un peu. C'est-à-dire, effectivement, moi je crois que je nais hypersensible avec cette exigence par ailleurs. Et donc, il y a une forme de construction assez méthodique de murs, de parois, ce qui vous rend du coup assez étranger au reste du monde et imperceptible aussi pour le reste du monde, ce qui vous isole un peu. Et l'écriture, alors elle n'explore pas encore cette sensibilité-là. C'est une écriture de nouvelles, de descriptions, qui est quelque chose au fond d'un peu tâtonnant, d'amour des mots, d'amour de cette précision-là, mais aussi de... Je pense d'échappatoire, c'est-à-dire quand on a la vie que j'ai eue, qui est par ailleurs qui était une enfance heureuse, c'est une enfance un peu enfermée. Et je pense qu'elle a été conçue comme de la protection de mes parents. Et donc, moi, je me souviens d'une nouvelle où je parlais d'un champ de rizière, et en fait, c'était ça aussi. C'est ce moment où vous voyez une image, tout à coup, c'est ailleurs. Quoi.
Et pour pouvoir respirer, sauf que là, vous n'en avez pas le temps de respirer, il n'y a pas de place pour échouer sur les terrains de basket. Vous dribblez, et pour vous booster dans les vestiaires, toute l'équipe écoute ça. Longtemps au basket, Marie Petit-Pénau, ça vous a construite comment ça?
Je crois qu'il n'y a pas de plus grande école, en fait. C'est à la fois l'exigence de soi, du geste, de l'endurance, et puis c'est un collectif. Moi, ça m'apprend aujourd'hui, dans ma vie professionnelle et personnelle, à être attentif à chacun des personnes qui m'entourent. Quand on a 20 ans de capitanage, je veux dire, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un camarade qui ne va pas sans que vous le sachiez. Ça permet, c'est à la mode, une résilience quand même très puissante. Et puis, ça permet de chercher la victoire tout en apprenant à perdre de temps en temps. Moi, je n'ai toujours pas appris à aimer ça, hein, mais ça arrive.
Est-ce qu'il y a une forme d'exaltation de valeurs dites masculines aussi? Comment on se débrouille de tout ça quand on est une femme?
Oui, alors c'est très juste. C'est-à-dire, au fond, moi, j'ai donc grandi avec ces garçons. Je jouais pendant la cour de récré, je jouais le soir, le week-end. Et quand je m'inscrivais dans une équipe de basket, je m'inscrivais aussi avec les garçons. Donc, je faisais toujours les deux. Et oui, j'ai été perçue comme ça. C'est-à-dire, probablement, à un moment donné, on questionnait ma féminité. Mais pour moi, ça a été un grand mystère parce que vouloir se dépenser, vouloir gagner, vouloir cette jubilation, pour moi, c'était incompréhensible que ça puisse être masculin. Mm-hmm. Enfin, c'était juste pour moi un truc d'être humain. Et je voyais pas pourquoi j'y avais pas le droit.
Alors vous passez le bac, vous quittez Nancy pour Paris et les bancs de Sciences Po. Vous décrivez longuement dans votre livre l'appartement de 30 mètres carrés tout en longueur au deuxième étage avec ses quatre grandes fenêtres qui donnent sur un mur. Vous vous sentez protégé, là encore, seul, là encore, au milieu de vos livres, la télé en toile de fond. Ces longues douches trop chaudes sans personne pour les interrompre jamais. Vous êtes nostalgique de vos années d'étudiante?
Alors, pas vraiment. Parce que c'était quand même une forme de mal-être assez répétitif. Et puis, certes, on avait la vie devant soi, et c'est vrai qu'on a de moins en moins ce sentiment, mais pour autant, on avait aussi l'idée qu'on n'y arriverait jamais. La vie était une sorte de buisson d'épines, j'avais l'impression. Et puis moi, j'étais en train de sortir du giron de chez mes parents, avec une forme de radicalité très violente.
Vous dites que vous vous rappelez sans arrêt cette phrase « N'oublie pas d'où tu viens, mais pas par loyauté, pour surtout ne jamais y retourner. »
Exactement. Exactement. C'est-à-dire, au fond, quand on me disait « N'oublie pas d'où tu viens », moi, je me disais je retourne pas dans ce monde où avoir cette envie, cette énergie qui est délirante, enfin je veux dire aux yeux du reste du monde, est quelque chose d'assez monstrueux. Donc je voulais retrouver des gens qui avaient cette même envie de bouger les choses, de changer le monde, d'avoir envie de gagner.
Oui, il y a une forme d'exaltation dans ce que vous décrivez à cette époque-là, exaltation où on est sans limite, où l'esprit est sans limite, où le corps est sans limite, où la nuit est sans limite aussi.
Et vous n'êtes jamais fatigué, mais l'angoisse aussi est sans limite. Hein, je veux dire, la violence est sans limite. C'est-à-dire qu'en fait c'est le propre, je pense, de la fin de l'adolescence, c'est que vous êtes tout puissant.
L'amertume, écrivez-vous, est partie avec la rencontre de votre père. Écrivez-vous à vos enfants, encore une fois. Hein, puisqu'avec vous, mes enfants, qui déversaient l'évidence du charnel, l'urgence des baisers. Pourtant, à l'aveugle, clandestinement, mon corps cherche encore cette énergie du soulèvement. Je suis un corps cloué en salle de réveil, au mouvement lent, gourd, le cœur qui va et qui vient. Un corps qui voudrait encore du bruit et de la fureur, du sang, de la sueur et même des larmes. Oubliez les 40 ans qui chuchotent, qui résonnent et qui hochent la tête et pincent les lèvres. Vouloir exulter encore.
I took a chance to build a world of mine. A one-way ticket for another life. Petrol stained sailboat. On a petrol stained sailboat. I used to dream about the other side. The sun rising on the skyline.
Et si ce Land of All de Woodkid résonne sur les ondes de France Inter, c'est qu'il vous a accompagné pendant l'écriture de votre second manuscrit, Marie Petit-Cueno. L'écriture, est-ce que ça sert à ce dont on parlait à l'instant, à exulter encore, à ressentir encore ?
L'écriture, en tout cas, pour moi, c'est d'abord, c'est une nécessité. C'est-à-dire c'est un peu inexplicable, c'est quelque chose qui arrive, qui vous prend les tripes, la cage thoracique, la gorge. Et puis c'est un moment qui sert à être en vérité avec soi-même. C'est-à-dire c'est un moment, je trouve, d'une limpidité absolue. Si vous avez la chance de pouvoir faire le vide autour de vous pendant l'espace de quelques temps, quelques heures, c'est ce qui vous permet de trier les émotions et donc d'arriver à une forme de, j'allais dire pureté. Je déteste ce mot parce qu'entre pureté et épuration, il n'y a quand même pas beaucoup d'espace, mais disons de limpidité de ce que vous pouvez ressentir. Donc oui, bien sûr, ouais. C'est de l'exultation. Bien sûr, ouais. C'est un choix politique d'écrire. C'est décider dans cette joie-là de c'est comme une source qui coule. C'est-à-dire que vous retrouvez ce premier de vous.
Et de quitter les injonctions à la performance, à l'action et au résultat.
Ah ben, je crois qu'il y en a plus de possible, ouais. À ce moment-là.
Vous écrivez depuis toute petite. Qu'est-ce qui fait qu'avec Ceux qui grondent, le roman pour lequel vous êtes dans Unique en son genre ce soir, qu'est-ce qui fait que vous êtes autorisé à envoyer votre manuscrit et à vous dire « ouais, je vais être publié » Parce que c'est une chose d'écrire, c'en est une autre de se dire « allez hop, j'y vais ».
Bah alors, il faut que j'avoue ici que c'est pas du tout le premier que j'ai envoyé. Hein. J'ai subi moult échecs. Je pourrais vous dire si c'est 10 ou 15 de manuscrits qui m'ont été renvoyés. La question, c'est pourquoi celui-ci marche. Honnêtement, c'est une réponse très dure à donner. Je pense qu'il y a une partie de chance et puis il y a une partie. Peut-être ça répond aussi à aujourd'hui ce que les gens ont envie d'écouter. Peut-être c'est aussi une voix qui a 40 ans et c'est pas très original, se pose vraiment dans une forme de justesse alors qu'avant elle est peut-être un peu bancale encore. C'est dur de vous dire, mais en fait pour moi depuis toujours la question de ne se pose jamais d'écrire pour moi, ça n'existe pas. Me concernant, c'est-à-dire au fond, moi j'écris pour rompre la solitude des gens, j'écris pour que ça puisse faire résonner quelque chose de l'ordre de l'amour à l'autre. Enfin, quand j'écris à ce sujet-là, je me dis que les femmes qui ressentent la même chose vont être émues. J'ai eu des retours de ce livre de femmes qui me disent que pour la première fois, elles ont été vues. Pour moi, il n'y a rien qui a une plus grande valeur que ça. C'est-à-dire au fond, qu'une femme qui vit des difficultés puisse savoir que les mots valent pour elle, qu'elle n'est pas rien, qu'elle n'est pas en faute.
Alors après, il y a quand même une mise à nu dans l'écriture. Vous le disiez tout à l'heure, à 40 ans, on est un peu plus en place et on est peut-être un peu plus prêt à se dire soi dans toute sa sincérité. Je me disais peut-être que avant cette mise à nu, il a fallu trois petits trolls pour vous mettre aussi face à vous-même. Votre fille aînée, principe d'intégrité, c'est comme ça que vous l'appelez. Votre cadet, principe de la tendresse. Et la petite dernière qui réclame la vie, principe de la dictature. Aux trois, pendant des nuits sans sommeil et sans écriture, vous avez raconté les mêmes histoires, chanté les mêmes chansons, offert, ou presque, les mêmes caresses.
France Inter, unique en son genre.
Ne pleure pas, Jeannette. Tra la 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 la. Ne pleure pas, Jeannette. Nous te marierons, nous te marierons.
Qu'est-ce que vous ressentez, pour le coup, quand vous entendez cette chanson-là ? Est-ce que ça parle au cœur, à la tête, au corps ?
Là, c'est très charnel, vraiment. C'est une chambre précise avec mon fils sur le bras, contre mon flanc, qui progressivement, vous voyez, a un bras qui lâche, la tête qui lâche contre. Et soudain, on sent que le petit ventre qui était tendu, les cris cèdent et que ça y est, quoi. Il est rassuré, il s'endort, c'est passé. Mais c'était absurde parce que cette chanson, enfin, honnêtement, pardon, elle est quand même dure en termes de paroles. Et il n'y a que ça qui me venait. C'est-à-dire, j'espérais vraiment chanter un truc apaisant, mais j'ai fini par me dire, bon, bah, c'est probablement ma voix qui va les aider, j'ai pas d'autre choix.
Alors, il y a des moments de symbiose comme ça que vous décrivez dans le livre, mais vous écrivez aussi les moments plus difficiles, les débuts en tout cas. Vous dites, le séjour à la maternité, c'est la plus grosse arnaque de ma vie. En quoi ?
Ben, vous êtes dans un endroit qui est généralement assez déplaisant, vous êtes avec un corps qui généralement est assez déplaisant, et vous êtes entouré de personnes qui véritablement vivent un espoir très grand, qui est celui de vous voir incarner l'image de la mère, et probablement la possibilité pour eux-mêmes de la tendresse dans le monde. Et alors même que vous avez eu 2-3 nuits blanches en général, alors même que vous avez le corps qui crie, parce que, bon, disons-le, ça fait mal, alors même que vous avez cet enfant qui peut-être est très calme et très souriant, et peut-être ne l'est pas, alors même que peut-être vous savez comment faire, ou peut-être vous ne savez pas, et bien finalement, vous êtes, alors pour le coup, face au stéréotype de « c'est le plus beau jour de ta vie », là où vous dites « eh ben j'espère pas ». Et ça, c'est vraiment, c'est un hiatus immense.
Et pour vous, s'ajoute quelque chose, vous insistez là-dessus, c'est que votre fille, en tout cas, la première, ne vous ressemble pas. Et ça, au début, pour vous, c'est un poids. Mais pourquoi ?
Alors, ma fille ne me ressemble pas. Et c'est un poids parce que, ne sachant pas véritablement être mère, n'en connaissant pas ni les langages, en mimant les gestes, puisque les gestes, on les connaît, mais on les mime. Et ben je me dis, au fond, cette ressemblance aurait été, au reste du monde, la preuve que je ne sais pas donner. que je suis sa mère. Et donc je me dis, ce serait tellement plus simple, on pourrait regarder cette ressemblance et indiquer la filiation, et finalement, bah, en fait là on voit pas cette filiation. Et je sais plus qui je suis par rapport à cet enfant à ce moment-là. Ouais. Mais parce que je sais plus qui je suis par rapport à moi-même
d'ailleurs. Et il y a cette peur du coup qui grandit, sauf que, dites-vous, à cause de cette image d'Épinal, du bonheur maternel, etc., vous employez une très jolie formule, vous dites « il m'a manqué l'intimité d'une conversation à peur ouverte ». Or, cette peur grandit avec leur tour à la maison. Votre mari, faute de congé paternité, digne de ce nom en tout cas, reprend vite le chemin du travail. Ça, vous le vivez comment ?
Ben ça, je le vis comme un gouffre. C'est-à-dire, au fond, je pense que l'entourage se comporte de manière à ce que, enfin, comme on l'attend, c'est-à-dire le père qui souhaiterait rester, au fond, est aussi appelé à aller travailler, assumer son rôle de père, comme on peut l'entendre économiquement. Et puis moi, je rentre seule. Alors, il se trouve que j'ai la chance d'avoir une mère qui vient et qui me dit « Mais moi, j'étais comme toi, j'ai pleuré, mais en fait, vous êtes là, seule. » Et vous ne dormez pas, et vous avez mal, et vous savez pas comment on fait. Et finalement, vous finissez par appeler des gens, et vous dites c'est dur, et vous dites bien sûr c'est dur. On dit mais pourquoi personne ne m'a jamais rien dit? Pourquoi personne ne me demande comment je vais? Parce qu'au fond, la question ne se pose jamais. On vient vous voir et on présume que vous êtes très bien. Ouais.
Et puis cette peur grossit avec ce monstre domestique qui vous mord au mollet le soir. Justement, quand vous êtes seul avec votre fille et puis avec les trois, c'est qui ce monstre domestique? C'est quoi?
Alors en tout cas c'est une surprise d'abord parce que moi j'ai jamais été élevée comme il faut tenir ta maison, on m'a pas enseigné les arts ménagers, j'ai jamais appris à repasser, tout ça était pour moi complètement autre chose. Et puis le premier enfant, le deuxième enfant, et puis il y a quelque chose qui se met en place de l'ordre de l'hamster qui tourne dans sa roue domestique, c'est-à-dire au fond vous devez ranger. Alors il se trouve qu'un enfant ça a un potentiel de bordélisation dans l'appart qui est quand même inédit, hein. Mais enfin pour autant quand vous supportiez très bien de manger sur le pouce n'importe quoi ou qu'il y a un peu de linge par-ci, vous vous mettez à tout à coup avoir une espèce de surinstinct de le nid doit être propre, tout doit être bien. Et c'est vrai que le nid doit être propre pour un bébé. Donc tout ça est très ambigu parce que c'est une base de vérité. Et en même temps, vous devenez une sorte de d'appendice de vous-même qui devient fou. Et ça, je dis capot dans le livre, je deviens ça. Je deviens quelque chose de sifflant, de hurlant, qui a tout le temps besoin et qui dans sa tête est dans le salon. Et c'est qu'elle doit aller dans la cuisine, dans la chambre et qui connaît le trajet pour que ça passe moins de temps. Et qui va faire à l'envers pour remettre le linge dans l'autre sens.
Et puis il y a les cris permanents, les journées dépossédées de vous-même, le corps qui hurle, la fatigue qui ne l'entend pas, l'envie sourde parfois de mettre les voiles.
Allô?
Oui.
Christelle, t'es où là?
J'ai ma mère là.
Bah enfin t'es cinglée ou quoi? Tu sais où Rémi a trouvé la petite?
Elle est où ta sœur?
Elle est engueulée.
Elle a pas dormi ici.
Mais non.
Elle va la garder ici chez toi.
Attends, elle a l'air tellement désespérée, je parle mes dents non plus.
Non, c'est plus la naissance de la gosse, elle est tordue.
Jean-François, et si on y allait d'un coup de voiture?
Christelle a téléphoné. Elle a dit c'est Christelle et elle a raccroché.
Christelle Renaud, ça laisse quelque chose?
Qu'est-ce qui se passe?
Je vous en prie. Comment elle est?
Je sais pas, on se fréquente pas. Tu vas voir, ça va aller mieux maintenant. Tout va aller mieux.
Madame Renaud, il faut rentrer chez vous
et puis vous voir un médecin.
C'est peut-être le baby blues, c'est tout simplement.
Le lait de la tendresse humaine, film de Dominique Cabrera avec Patrick Bruel et Marlène Canto. Vous dites, Marie Petit-Cuenot, que vous les comprenez, ces femmes qui renoncent, celles qui s'en vont. Pourquoi? Ça pourrait être vous?
Qui renoncent? Moi, je n'ai pas eu à renoncer, j'ai eu cette chance, mais bien sûr, je comprends. Et il m'arrive très souvent de voir dans les news des femmes qui... un bébé secoué, ou ce genre de choses atroces, et je me dis, mais où sont les pères? Comment on fait pour laisser les femmes seules face à cette détresse? Je les comprends parce que j'ai été dans cette détresse. C'est-à-dire quand vous dormez 2 heures par jour pendant 2 mois, je défie quiconque d'être rationnel. Et surtout avec un enfant qui crie toute la journée. Bien sûr, je les comprends.
Et puis vous dites souvent, cette vie, elle est pas pour moi. J'étais pas faite pour cette vie-là. Vous étiez faite pour quoi alors que vous n'avez pas vécu en étant mère de 3 enfants?
Alors, je pense que j'étais faite pour une vie qui était plus légère. C'est-à-dire, pour moi, c'est lourd, quoi. C'est des tas de linge, c'est des tas de bébés, c'est des tout doux à n'en plus finir, c'est des kilos de légumes. Et ça, c'est un vrai mystère. C'est-à-dire, au fond, et c'est là que peut-être est la subtilité du livre, j'espère. C'est-à-dire, au fond, ça ne dit pas qu'il ne faut pas avoir d'enfants, je crois. Ça dit juste que il faut essayer de composer avec qui on est. Et ça, bah, on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, on n'a pas tellement le temps de se poser la question. Mais je crois que je suis cette femme et cette mère qui peut-être est très heureuse de voir ses enfants 1 heure par jour, mais qui n'a pas besoin au fond d'être 24 sur 24 avec eux, et qui a besoin, ben, en dehors de ce temps, de travailler, écrire, lire, avoir des amis, discuter, respirer, voir l'azur.
Et en même temps, cette vie, cette heure-là, avec eux, vous l'aimez et vous y retournez par trois fois. Pourquoi, au fond ? C'est-à-dire que tout ce qu'on décrit là peut sembler très très lourd à porter, vous y retournez deux fois.
Absolument. Et là aussi, le livre veut dire que on réduit souvent la parole des êtres humains, et peut-être des femmes en particulier, à un seul sens. Or, je crois qu'on ressent des émotions très paradoxales et qu'on a le droit de les avoir ensemble et de les assumer. Mmh. Moi, j'ai trouvé fatigant, difficile d'avoir des enfants, d'être coupée en permanence, d'être un peu assignée à résidence. Et en même temps, j'ai eu trois enfants, j'ai souhaité chacun de mes enfants. Parce que coexister à la fois cette forme de souffrance et cet élan de vie, cette curiosité, quand un enfant naît, c'est un monde qui naît. Enfin, je veux dire, c'est, et quand vous voyez cet enfant, vous découvrez un visage. Enfin, c'est quelque chose de l'ordre du miracle absolu.
Mais alors quoi? Il faudrait, pour que ce soit plus supportable, plus vivable, déjà avoir le droit de le dire ou pouvoir partager cette charge-là?
Moi, je pense que ça fait vraiment partie des premières choses qu'on devrait pouvoir faire, c'est-à-dire pouvoir dire j'ai des enfants et c'est très dur. Et au fond, le droit au répit de la mère, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, bien sûr, les couples s'égalisent, bien sûr, les pères prennent leur part. Bon, statistiquement, probablement, quand même, les mères portent une charge encore assez lourde.
Oui, on est encore sur du 80-20.
Exactement. Ouais. Donc, pouvoir le dire, et surtout, parce que je pense qu'au fond, on peut avoir une réalité complexe et fatigante, mais peut-être ce qui nous fait vraiment mal, c'est l'obligation de prétendre que tout est formidable et qu'on y arrive et que tout est bien et qu'on a tout choisi. Un travail, quand vous prenez un nouveau travail, on vous dit, et deux mois après, deux ans, on vous dit, c'est fatigant, on vous dit pas, mais enfin, quand même, ce travail, tu l'as choisi. Un enfant, oui. Un enfant, vous dire, mais quand même, cet enfant, tu l'as choisi. Oui. Donc, en fait, assume-le. Et en fait, c'est ça, sujet. Et finalement, cette souffrance qu'on ressent et de finalement sentir qu'elle n'est pas acceptable et que donc vous n'êtes pas acceptable et donc pas assez bien, en fait, c'est ça qui fait souffrir.
Alors, la routine, vous la cassez. Je suis une mère indécente, immature, indisciplinée. Écrivez-vous, vous êtes parfois l'enfant, mais l'enfant qui refuse de jouer, vous l'autorisez, vous avez toujours détesté jouer. Non, vous préférez les emmener en manif, parfois voir des rassemblements de gilets jaunes, par exemple, ou bien participer à la marche des femmes, celle qui fut si grande le 23 novembre 2019. Vous étiez là, avec votre fille aînée. Que vous vous dites à ce moment-là, au milieu de cette marée humaine, vous avez votre fille qui est là avec vous en plein milieu du cortège, vous regardez tous ces gens autour, vous entendez ces chants, vous voyez ces pancartes, vous dites quoi là ?
Je me dis à la fois, c'est formidable qu'elle soit là parce qu'elle fait partie de ce champ magnétique qui est très beau, très solidaire, très humain, et à la fois je me dis peut-être que je suis en train de faillir dans ma mission à la protéger.
Pourquoi ?
Parce qu'elle est petite, qu'il y a beaucoup de foule, que donc physiquement c'est pas facile pour elle. Et puis il y a ces femmes avec des clitos dessinés sur le visage, il y a ces grands messages sur la violence. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle comprend de tout ça ? Est-ce qu'elle va pas en avoir davantage peur ? Comment je peux l'aider ? Parce qu'il y a aussi une forme de violence dans la foule, en fait, et même dans l'expression, il y a de la colère chez ces femmes aussi.
Est-ce que cette responsabilité là, celle d'élever au sens le plus noble un enfant, est-ce que ça fait partie du poids dont vous parliez ?
Ça fait partie du mystère, c'est-à-dire au fond, moi je me dis, moi qui ai 12 ans d'âge mental, je veux dire, qui suis-je pour élever ces enfants ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis au fond, c'est le sens du livre aussi, c'est-à-dire au fond, on va grandir avec les individus qu'on est, et plutôt que de l'éduquer, peut-être l'élever, j'aime bien ce distinguo, parce qu'au fond, ils vont grandir avec qui je suis, mes grandes failles, mon courage, et finalement ils vont grandir par rapport à un individu, et en ça je me dis, réagissons à l'envie, à ce qui est mystique pour nous, ce qui est fort pour nous, et emmenons-les, le reste on faillira sur tellement de choses.
Ce qui est très intéressant aussi, et que je n'avais lu nulle part ailleurs, c'est quand vous parlez du rapport de force entre une mère et ses enfants, et que vous dites, commencez par dire, je déteste votre soumission, je hais même ce mot-là. En fait, avoir le pouvoir à la maison, ça vous va pas du tout. Pourquoi ?
je déteste ça. Et je le fais néanmoins, quand on dit pouvoir à la maison, c'est le pouvoir de dire je te range ta chambre, puis tu le fais maintenant. Et puis tu le fais probablement comme je vais te demander de le faire. Ouais. Je peux pas être à l'inverse de ça, c'est-à-dire j'ai bien conscience qu'il faut élever un enfant, il faut qu'il aille se brosser les dents, je veux dire, parce que c'est comme ça qu'il faut que ça marche, parce que pour toutes les raisons de santé, il faut que ce soit fait comme ça. Mais je déteste ça parce qu'au fond, je me sens pas si éloignée d'eux, et je suis pas sur un propos 68 heures, je suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire au fond, je leur impose quelque chose qui est violent pour eux, on pourrait être d'accord sur le fait qu'ils rangent leur chambre, mais c'est moi, c'est maintenant, et c'est moi pourquoi au fond? Parce qu'au fond, leur dignité à eux, elle est inaliénable. Et je suis pas en train de prêcher quelque chose de l'ordre de l'égalité entre le parent et l'enfant. C'est pas possible. C'est déstructurant pour les enfants. C'est pas ce que je veux dire. Mais le fait, au fond.
Mais c'est le fait que ça questionne.
De gagner le rapport de force. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait de plus pour mériter ça?
C'est ça. C'est que ça questionne à nouveau votre légitimité.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire qui je suis, moi.
Bien sûr. Et puis c'est une forme de violence. Et finalement, s'ils étaient aussi violents que moi en face, on jouerait armes égales, mais c'est pas le cas.
Sauf que vous dites, voir grandir un enfant, c'est un coup d'état permanent.
Bien sûr.
C'est-à-dire.
Ben c'est-à-dire c'est toujours moi qui décide d'imposer de la violence, c'est toujours moi qui gagne, c'est toujours moi qui ai la force.
Et en même temps, eux, ils vous bousculent sans arrêt. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir sur vous aussi, parce que les maîtres du temps, c'est eux, du moins quand ils sont tout petits, c'est eux qui décident que vous vous réveillez la nuit, c'est eux qui décident que le salon va être inondé de jouets.
Oui, mais vous avez ce qui est devenu un adulte d'un peu pernicieux, c'est-à-dire la capacité à masquer ces émotions-là, à pas jouer, on joue pas armes égales, c'est-à-dire je vais jamais leur montrer que je suis déstabilisée, je suis pas naïve au point de penser qu'ils ne voient rien de mes émotions. Mais pour autant, c'est moi qui vais gagner à la fin, pour l'instant.
Alors, de coup d'état en coup d'éclat de joie en coup de colère, vous avancez sur le chemin qui fait de vous une mère, vous le dites comme on l'a rarement dit, Marie Petit-Cueneau, avec ce qu'il faut de mots qui secouent et de mots qui caressent. Aussi Lana Del Rey sur France Inter.
It's dark, but just a game. That's what he would say to me. The faces aren't the same, but their stories all end tragically. Sweet, what would I have a baby? And that's the price of fame. A deal as old as time. Best ones lost their minds, so I'm not gonna change.
Lana Del Rey avec l'ami Djoubaka au platine, comme toujours. Vous retrouverez toutes ces playlists sur franceinter.fr à la page de l'émission, ce qui tombe plutôt bien.
Unique en son genre, Julia Foyce.
Bienvenue en 2022, quand le vent MeToo continue de souffler, quand il secoue les cadres et quand il interroge les normes et quand les frontières du genre se floutent, le masculin, le féminin, interpellé, interrogé, bientôt, qui sait, réinventé. Alors vous, qu'est-ce qui fait de vous la femme ou l'homme que vous êtes aujourd'hui? Cette question, nous la posons semaine après semaine à tous nos invités. Marie Petit-Cueno, vous n'y échapperez pas. L'objet qui fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui, ce serait quoi?
Alors l'objet, je le sors là, c'est un ordinateur portable. Alors c'est un outil un peu banal que tout le monde a, ou presque.
Alors il est noir, je dirais 13 pouces. Je suis la meuf qui connaît vachement
d'ordinateur.
Exactement,
c'est une tablette portable.
Elle est très belle.
Et en fait, c'est pas un objet de la féminité reconnue, mais c'est ce qui a fait de moi une femme. Je dirais pour deux raisons. La première, parce que c'est l'objet de l'écriture. Alors bon, c'est pas celui historique sur lequel j'écris depuis toujours, mais néanmoins, c'est quelque chose comme ça. Et c'est moi ce qui m'a permis de déplier les émotions avec les doigts des mots et pouvoir sentir un peu ce qui était doux, ce qui faisait mal et en quoi c'était être femme ou ne pas être femme. Et puis la deuxième raison, et je dirais c'est presque la principale, c'est que c'est avec ça que je gagne ma vie depuis longtemps. Et que pour moi, pouvoir être femme, et en tout cas la femme dont j'ai le potentiel en moi, c'est pouvoir gagner ma vie financièrement.
Ça veut dire que c'est une question autant de pouvoir sur le réel, de pouvoir sur l'histoire, sur les mots, que d'indépendance.
Exactement, ouais. C'est les deux. Et moi, ma mère, l'une des seules choses qu'elle me dit sur le féminisme, puisque c'était pas tellement un sujet à la maison, c'était il faut que tu puisses rester avec un homme parce que tu l'aimes et pas parce que tu en dépends. Et ça, je pense que ça fait partie du kit de ce qu'on doit dire à nos filles, peut-être même à nos garçons, hein, disons-le. Ouais. Mais en tout cas, je crois qu'on voilà, il y a rien de plus beau que de choisir. Il y a tellement de femmes qui n'ont pas le luxe de le faire. Et indépendamment de situations particulièrement tragiques pour lesquelles je crois c'est évident qu'il faut être indépendant pour pouvoir quitter des situations de maltraitance. Mais aujourd'hui, je gagne ma vie, je peux être où je veux ou ne pas être où je veux, et la question ne sera pas est-ce que je peux payer un loyer ou pas. Et pour moi, être femme et être un individu, en fait, hein, c'est pouvoir décider de cette partie basique de la vie.
Est-ce que ce sont des questions qui vous traversent quand vous élevez vos enfants, vos deux filles et votre fils? J'y pense parce que je repense à cette marche des femmes. La question du genre, la question du masculin, du féminin. Quand on élève des enfants en plein MeToo, qu'est-ce que ça change?
C'est évident que c'est une question profonde. C'est une question profonde parce que d'abord vous avez peur, par exemple, que vos filles soient sous emprise d'un homme maltraitant, parce que vous avez aussi peur que votre petit garçon que vous aimez, pour qui vous êtes traitante, devienne un enfant maltraitant. Et ça, enfin moi, ce serait tellement incompréhensible. Et puis vous savez, il y a deux semaines, mon petit garçon m'a dit, j'ai entendu dire à un garçon était devenu fille. Mais alors pourquoi est-ce qu'on veut devenir fille? Alors en plus pour lui, ça paraît totalement absurde parce que les filles c'est quand même très démonétisé, j'imagine, à son âge. Et toutes ces questions-là, et j'ai envie de lui dire pourquoi. Alors évidemment, ma réponse était quand même un peu simple, et puis j'ai pas forcément la vérité, mais la question qu'il pose me la pose à moi, c'est-à-dire au fond pourquoi une fille veut devenir garçon et pourquoi garçon veut devenir fille, c'est-à-dire au fond qu'est-ce qu'on a enregistré comme attribut de la fille et du garçon qui nous donne envie d'être autre chose. Moi j'ai envie de dire qui que tu sois, si tu es né fille ou tu es né garçon, qui que tu sois, sois tout ça, tout. Mais finalement c'est pas vrai.
Et vos filles, elles vous interrogent là-dessus, parce que même à leur âge on n'est pas hermétique à l'époque. Elles ont, on le précise, aujourd'hui 13 ans et 6 ans, vos deux filles.
Exactement. Alors moi, je suis persuadée effectivement qu'on élève nos filles avec l'ensemble de la société, de l'histoire et probablement de leur génétique. Donc oui, bien sûr. Après, bon, je vous cache pas qu'elles naissent dans une famille qui est quand même un peu militante. Moi, j'en ai une qui veut être dresseuse de crocodile. Enfin, l'autre qui veut être chanteuse. Donc bon. toutes ces questions, en fait, je pense, je les ai tellement serinées avec tout ça qu'à un moment donné, je lance la machine à propagande positive, et puis elle me dit, je sais, maman. Donc, je pense que tout ça va devoir être regardé aussi à l'aune de ce qui est l'adolescence, qui est un vrai cristalliseur des stéréotypes. Ouais.
Et ben, on embrasse la future dresseuse de crocodile et la future chanteuse.
Absolument.
Et votre petit garçon, il veut devenir quoi?
Tennisman ou mathématicien, c'est pas trop.
Ah ouais, c'est un grand écart, quoi. Allez, passons genre, c'est terminé pour ce soir. Marie Petit-Cueno, je rappelle le titre de votre livre, Ceux qui grondent, édité chez Flammarion. Ludovic Asselot était à la technique ce soir, Marianne Crimbaud à la réalisation, Ophélie Vivier à la programmation, à la coordination de cette émission. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à celles et ceux qui nous écoutent. Je vous embrasse et je vous dis évidemment à la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.